Stéphane Alix est notre invité aujourd'hui. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Stéphane, vous êtes un ancien journaliste de guerre et président de l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires aujourd'hui. Vous venez de publier un livre bouleversant pour l'avoir lu, La mort n'est pas une terre étrangère, un livre qui est paru aux éditions Albin Michel. Alors je le disais, c'est un livre bouleversant dans lequel vous racontez comment la vie vous a amené à apprivoiser la mort. Tout commence avec le décès de votre frère en 2001, Thomas, qui était soldat en Afghanistan. Qui était en Afghanistan. Qu'est-ce qui vous a poussé à dépasser la douleur de cette disparition pour vous intéresser au phénomène de la mort ?
La question, quand vous êtes face à quelque chose comme ça, ça devient très concret, très réel. On était trois frères, on n'était plus que deux ensuite. D'avoir tenu les mains de mon frère sur le lieu de l'accident, sur une petite route au sud de Kaboul.
Il a eu un accident de voiture.
Voilà, il est mort d'un accident de voiture dans une mission que je dirigeais à l'époque, en avril 2001.
En tant que reporter de guerre.
Voilà. Et c'est vrai que devant ce corps qui est en train de refroidir, qui est en train de s'échapper, il y a des questions qui sont les questions que l'humanité se pose depuis des millénaires, que j'ai eu envie de me poser. Et moi, toute ma vie, en tant que journaliste, en tant que journaliste d'investigation, reporter de guerre, j'ai toujours eu envie de ne pas laisser des questions de côté, même si c'était des questions qui me faisaient peur, et j'ai décidé de me jeter corps et âme.
Vous étiez déjà fasciné par la mort avant. Vous dites même dans votre livre que vous étiez devenu reporter de guerre pour la tutoyer, cette mort.
Oui, c'est vrai que c'est une fascination que j'ai depuis presque l'enfance, et c'est vrai que je suis devenu reporter de guerre. J'ai rejoint un groupe de résistants afghans en 1988, j'avais 19 ans à l'époque. J'avais besoin de me coltiner à ça, je rêvais devant les photographes de guerre qui avaient rempli l'histoire de la guerre du Vietnam notamment. J'avais un rapport un peu bizarre et un peu morbide, peut-être un peu adolescent. Il a mûri avec le temps, et puis de ce rapport qui était un peu intellectuel, bizarre, qui plongeait ses racines au fond de mon histoire personnelle, et ben voilà, la mort de Thomas en 2001, alors que j'avais un peu plus de 30 ans, a tout de suite rendu la question essentielle, obligatoire, et je ne pouvais plus m'échapper, il fallait que je lui fasse face.
Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs de quelle manière vous avez satisfait votre curiosité pour la mort ? Comment vous êtes-vous questionné ? Qui avez-vous rencontré ? Même si c'est le thème majeur de votre livre, on vous suit au fur et à mesure des rencontres.
Ce qui est le plus difficile, je crois, c'est de ne s'en tenir à aucune croyance. Moi, au moment, à la seconde même de l'accident, quelles qu'aient pu être mes croyances antérieures, elles auraient été balayées par la violence de cet instant, par la violence de voir voilà le corps sans vie, la main que je tiens et qui tombe par terre. Cet instant-là balaye tout ce que vous avez pu construire si c'est pas profondément ancré en vous. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je questionne tout ce qui peut être questionné. Et il faut que je fasse un peu comme ce que l'on fait quand on rentre au cinéma. Quand vous entrez dans une salle de cinéma, vous savez très bien que l'histoire que vous allez voir est fausse, ou inventée, ou tirée d'une histoire vraie, mais que c'est de la fiction. Donc vous entrez dans le cinéma en ne vous posant pas la question, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Vous entrez, vous vous laissez prendre par l'histoire. Vous suspendez votre croyance. Et c'est ce que j'ai fait en commençant cette enquête. J'ai gardé ma rigueur journalistique, c'est-à-dire que je pose des questions, j'analyse différentes pistes, je tire des enseignements de ça, j'avance étape par étape. Mais surtout, je ne me dis jamais, à aucun moment, que je sais. Que j'y suis arrivé parce que aucun scientifique digne de ce nom ne tient cette position-là. Donc j'ai voulu questionner au départ les médecins et puis c'est allé de plus en plus loin.
Alors il y a des médiums, vous rencontrez des chamans, des médiums en effet qui vous font avancer. David Servan-Schreiber également rentrera tout à l'heure dans le détail de cette rencontre avec ce célèbre psychanalyste. Il est psychanalyste.
Hein, neuropsychiatre.
Neuropsychiatre, c'est ça. Vous dites que vous êtes rentré en contact plusieurs fois avec votre frère depuis sa disparition. De quelle manière ?
Oh, ça c'est une longue histoire, c'est tout le livre ça. Je tiens à déjà peut-être à rassurer vos auditeurs qui s'imaginent que vous avez un doudingue sur votre plateau. Je crois que c'est une relation intime que l'on commence à tisser avec les personnes que l'on a perdues. Mon frère ne m'est pas apparu comme ça subitement au pied de mon lit pour me dire « Coucou, tout va bien, je suis autre part ». C'est un questionnement qui est nourri, qui s'abreuve de certaines expériences totalement subjectives qui sont absolument improuvables. Je tiens quand même à préciser ici qu'aujourd'hui, la science ne peut absolument pas nous convaincre ou nous assurer qu'il y a une continuité de la conscience après la mort. Elle peut pas nous assurer de l'inverse non plus. Donc tout est ouvert en fait. Et dans cette ouverture, j'ai accepté, une fois que le chemin scientifique avait été accompli, que j'ai rencontré des médecins, que j'ai rencontré des neurologues, des chercheurs, qui m'ont assuré que les connaissances actuelles sur la conscience sont bien limitées, et qu'il est parfois tout à fait possible et envisageable de s'imaginer que quelque chose perdure après la mort du corps. Le cas des expériences de mort imminente est très très troublant. Il y a des cas qui sont profondément troublants. Donc une fois que j'arrive à ce stade-là, plutôt que de continuer à essayer de me buter continuellement devant le mur de la question scientifique, j'ai essayé d'obliquer un peu plus sur mon expérience personnelle, sur mes ressentis. Et c'est pour ça que, comme vous le disiez, je suis parti en Amazonie, travailler avec des chamans qui disent être en rapport avec le monde des morts. J'ai travaillé aussi en France avec des gens qui disent pouvoir communiquer quotidiennement avec des personnes décédées, qui sont des médiums. Alors là aussi, je suis pas allé la bouche en cœur en disant oh, c'est extraordinaire. J'y suis allé avec des questionnements, avec des propositions de tests que je leur ai soumises et un certain nombre ont accepté, se sont prêtés au jeu. J'ai été extrêmement rigoureux dans les tests.
Oui, parce que vous décortiquez en permanence quand vous rencontrez ce médium Henri
Vigneault,
exactement. Vous décortiquez en disant est-ce que dans ce que je lui ai dit, j'ai pu lui donner des clés pour peut-être le diriger lui-même dans ce qu'il va me dire. Et en fait, vous décortiquez toute la conversation que vous avez avec lui en disant, voilà, est-ce qu'en lui disant ça, il a pu deviner peut-être que mon frère est parti dans un accident de voiture? Et en effet, il y a des moments où vous arrivez à une réalité, c'est-à-dire que non, il y a des choses qui ne s'expliquent pas.
Qui ne s'expliquent pas. Et voilà, j'ai eu la chance de tomber sur des médiums qui sont des gens très très honnêtes, très gentils, et qui ont accepté justement de se prêter au jeu, parce que c'est pas évident. Voilà, vous trouvez devant quelqu'un qui ne vous connaît ni Neve ni Adam et qui vous commence à vous sortir un certain nombre de détails très très précis sur votre frère décédé. Donc j'ai essayé d'isoler toutes les explications possibles, comme je le détaille vraiment longuement dans le livre. Je vais le faire très court ici, mais vous avez plus ou moins, il y a la fraude bien évidemment, donc il est évident qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce milieu-là, mais il y a aussi beaucoup de gens très très honnêtes. Donc ayant éliminé la fraude, il nous reste des possibilités de sensibilité particulière, de lecture. Quelqu'un qui serait particulièrement physionomiste, comme un videur de boîte de nuit, va être capable quand même de lire beaucoup, beaucoup de choses sur un visage et peut-être de vous impressionner. Et vous, étant, en venant consulter un médium, vous êtes en demande, vous êtes vous-même
fragile, dans une situation
fragile,
de vulnérabilité.
En train peut-être de reconstruire quelque chose. Donc, pour éliminer de l'expérience toutes ces possibilités d'interprétation, j'ai demandé à un médium de se mettre dans une pièce et j'ai demandé à des sujets cibles qui n'étaient pas moi de se mettre dans une autre pièce. Et j'ai demandé au médium de se connecter.
Votre épouse, votre mère.
Voilà, mon épouse, ma mère, mais aussi des amis dont je connaissais beaucoup moins l'histoire. Et je demande au médium, s'il y a des esprits de décédés autour de cette personne-là, obtenez des informations. Et c'est là, en retranscrivant l'entièreté de la session, que l'on s'aperçoit que soit que le médium éventuellement tourne autour, dit 25 bêtises pour dire un truc à peu près vrai, et là on pourrait suspecter que c'est nous qui interprétons, ou si au contraire, comme c'est arrivé dans plusieurs cas, le médium dit une information extrêmement juste, suivie d'une autre. Dans le cas où ma mère sert de sujet, le médium, Henri Vigneault en l'occurrence, attrape instantanément un jeune garçon avec une douleur à la tête, mort dans un accident de voiture. La personne suivante qui passe est une amie de ma femme dont la mère est morte d'un cancer. Là, Henri Vigneault a
instantanément... Il est à l'intérieur du corps et il explique...
Il visualise le corps, la douleur dans la poitrine. Oui. Donc, on n'est pas dans un tâtonnement, on est dans quelque chose... Encore une fois...
D'ailleurs, quand on lui dit non, ça ne me dit rien, il continue, lui, il persiste dans son point de vue en disant « Moi, je vois ça, je suis désolé, mais je vois ça. » Et finalement, après réflexion, les gens finissent
exactement,
par trouver le
exactement.
Lien.
C'est comme s'il était en discussion avec quelqu'un qui a sa propre intelligence derrière. C'est ça qui est très, très, très troublant.
On va continuer à discuter avec vous, Stéphane. Juste hier, à la fin de cette émission, on a posé la question du répondeur européen. On vous a demandé s'il fallait, selon vous, parler ouvertement de la mort aux enfants. Voilà ce que vous nous avez répondu au 3921.
Bonjour Faustine, Françoise de Paris 20e. Oui, il faut l'expliquer à leur demande, bien sûr, sans forcing de vocabulaire ni de grandes explications, et même encore davantage peut-être s'ils le demandent. J'ai été privée de la vision de la mort de ma maman quand elle est partie, j'avais 7 ans, et j'ai toujours été frustrée, j'ai 63 ans, de cette ultime vision qui m'aurait montré ma maman apaisée.
Oui, bonjour Faustine. Eh bien, pour moi, expliquer la mort aux enfants devient tout simple avec la mort de l'animal de compagnie, de la maison, etc. Mais je pense quand même qu'il faut laisser rêver les enfants en leur disant que n'importe comment, on y va tous et on s'y retrouve tous. Voilà, au revoir.
Bonjour Faustine. J'ai eu la malchance d'avoir un fils qui a 24 ans et parti pour l'au-delà, mais... Ma fille a pris le parti aux petits-enfants de ne pas leur dire. Mais transparaît dans les dessins de mon Thomas une croix, comme une tombe. Je n'en ai pas dit à personne, mais c'est important.
Bonjour Faustine et bonjour à toute l'équipe. Justement, moi j'ai un petit garçon qui a 6 ans. Et ces jours-ci, il m'a demandé, tu crois que je peux mourir un jour, maman? Et puis il nous demande si sa mamie va mourir. Et puis si nous aussi on va mourir. Et où est son papy? Alors, comment lui expliquer comment le réconforter, parce qu'en plus, il est très très anxieux. Au revoir.
On a une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre, Stéphane?
Oui, moi je suis vraiment un partisan absolu du parler. Et ma fille avait 3 ans quand son oncle est mort. Et quand je suis revenu en France avec le corps de mon frère, on a installé le cercueil dans la maison de mes parents. Et j'ai demandé à ma fille de venir s'asseoir sur moi. Et je lui ai expliqué ce qui venait de se passer. C'est évident, les enfants le savent. Les enfants savent très bien ce qui se passe. Donc ils ont le choix entre soit quelque chose de difficile à entendre, soit un mensonge. Qu'est-ce qu'il faut choisir?
On s'arrête un moment et on se retrouve après avec tous vos témoignages dans un instant. Si vous-même vous avez accompagné quelqu'un dans la mort, ce qui vous a rassuré dans son approche, si au contraire vous êtes totalement fermé à l'idée d'un après et que la mort vous pétrifie, vous nous appelez au 3921 ou vous pouvez également nous envoyer des mails sur europe1.fr. Et pour tous les SMS, je vous rappelle le principe, vous envoyez le mot-clé, c'est bonheur, espace, suivi de votre message. À tout de suite.
Europe 1, et si c'était ça le bonheur? Faustine Bellard.
J'ai surmonté ma peur de la mort. Stéphane Alix aujourd'hui est notre invité pour en parler. Stéphane qui est ancien journaliste de guerre, président de l'Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires. Il publie aujourd'hui un livre suite à la mort de son frère en 2001. Il s'appelait Thomas. La mort n'est pas une terre étrangère, qui est une véritable enquête justement, on va dire aux frontières un petit peu de la mort. Je vous lis différents courriels qui nous arrivent au standard Europe 1, europe1.fr. Sonia nous écrit, j'ai perdu 2 frères dans 2 accidents de la route différents. Un à l'âge de 19 ans, moi j'avais 9 ans, et le second, mon frère adoptif à l'âge de 26 ans. Le manque est horrible, il me manque chacun différemment. Je n'ai pas peur de mourir, je crois en l'au-delà. Je sais qu'ils m'attendent. Je suis curieuse et remercie votre invité de raconter ces expériences qui sont pour moi rien d'autre que de l'amour. Même si je me suis fait aider par l'hypnose et que je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, je vous assure, je n'ai aucune envie de mourir, mais je n'ai pas peur pour moi. Par contre, le fait d'avoir dû apprendre à vivre sans mes 2 frères me fait psychoter aujourd'hui et j'ai peur de perdre les êtres qui comptent pour moi. Je retiens dans le témoignage de Sonia en disant, finalement, pour moi, toutes ces aventures ou tous ces signes, ce ne sont que de l'amour. C'est-à-dire, est-ce que quelque part, quand on a tellement envie de recevoir des signes, quand on est tellement en manque charnel de l'autre, on les interprète tout simplement pas, on n'en invente pas, entre guillemets, des signes?
Si, on peut en inventer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir un nuage à une forme particulière et ils se sentent tout de suite immédiatement concernés en se disant que c'est un signe de l'au-delà. C'est vrai que ce type de comportement peut glisser vers un certain nombre d'excès, mais il y a un certain nombre de signes. Vous savez, le signe, ça va être la perception subjective de quelque chose. Parfois, ça peut être extrêmement troublant, parce qu'effectivement, ça va être un papillon, comme c'est arrivé à mon autre frère, Simon, un papillon à 5000 mètres d'altitude, là, un endroit où il n'y a absolument aucun papillon. Mais ça peut être quelque chose qu'a beaucoup questionné mon père, par exemple, alors qu'il visitait un monastère qu'avait construit son propre père. Il voit un oiseau se poser sur le clocher, et il dit, mais ça, c'est un signe ou c'est pas un signe? Parce que cet oiseau ressemblait à un oiseau qu'il avait vu à Kaboul quelques mois auparavant. On n'en sait rien, il n'y a pas de réponse. Quel sens de vouloir apporter une sorte de certitude scientifique à ce sujet? Qu'est-ce que vous allez faire de ce qui se passe? Comment vous allez vous nourrir, comme cette auditrice qui vous écrit et qui vous parle de la façon dont elle a vécu la mort de ses 2 frères? C'est ce qu'on en fait. Il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est ce que vous en faites vous-même.
Vous, parce que là, depuis tout à l'heure, vous parlez des questions et vous laissez tout ouvert. Mais vous, aujourd'hui, votre croyance intime?
Ma croyance intime, elle est développée sur un peu plus de 200 pages dans ce livre.
Pour les auditeurs qui ne sont pas encore procurés votre livre.
Je crois qu'on est entouré de beaucoup de choses invisibles et que ces choses invisibles nous provoquent 2 types de réactions différentes. Soit je veux pas y croire, ça n'existe pas, c'est pas possible, je suis juste cette enveloppe de chair. Soit peut nous faire glisser vers parfois des systèmes de croyances qui peuvent être excessifs. Moi, ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie, c'est d'être ouvert et réceptif à ces choses que je ne comprends pas, qui se manifestent quotidiennement, des rêves, mais parfois des choses qui sont beaucoup plus troublantes que des rêves, qui me laissent imaginer que mon frère n'est peut-être pas totalement disparu, son corps n'existe plus, son identité n'existe plus. Thomas Alix, je ne le reverrai plus jamais de ma vie. En revanche, ce qu'il a animé, ce qui a été à l'intérieur de lui, a peut-être pas totalement disparu, parce que j'ai vécu pas mal de choses très très troublantes à ce niveau-là.
Vous êtes extrêmement cartésien en parlant d'un sujet qui ne l'est tellement pas. C'est étonnant parce qu'on retrouve toujours la rigueur du journaliste dans
votre livre. Au-delà d'une rigueur de journaliste, c'est une rigueur d'être humain. Vous savez, d'avoir vu mon frère mort comme ça devant moi, de l'avoir touché, d'avoir senti ses membres se raidir, d'avoir lavé son corps avant de le mettre dans un cercueil pour toujours, ça m'impose un sérieux absolu dans cette enquête. Je peux pas me laisser embarquer dans une croyance parce que tout d'un coup je me dirais tiens ça a l'air pas mal ça, bah je vais prendre ci. Ça m'impose une rigueur absolue Et c'est ça qui m'a ouvert à des univers extraordinaires.
On va revenir sur l'expérience avec David Servan-Schreiber dans un moment, mais on va prendre Chantal d'abord. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Bienvenue parmi nous Chantal. Vous
Merci.
Avez 56 ans, vous nous appelez de Lyon. Et vous,
c'est
vous souvenez du jour exact, d'une expérience de mort imminente, hein. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le décrire. Expliquez-nous Chantal.
Oui, c'est exact. J'accouchais de ma seconde fille. Il s'agissait, c'était le 4 novembre de l'année 82. Et l'accouchement se déroulait correctement et on a dû faire une délivrance artificielle. Et je pense que durant ces instants, je suis partie voir au-delà. Et je suis un peu troublée.
Oui.
C'est difficile d'en parler parce que
vous
ça me trouble toujours. Je le vis toujours d'une façon très très intense. Car je suis partie dans un tunnel de lumière, une lumière blanche, une lumière que je n'ai jamais connue sur Terre. C'était un moment extraordinaire. Ce tunnel, comment dire, il y avait également des figures géométriques de couleurs, d'une couleur très intense. Je me sentais dans un bien-être qu'on ne trouve pas sur Terre, quelque chose que je n'ai jamais pu vivre à un autre moment. J'ai vécu beaucoup de moments heureux dans ma vie, de moments très très intenses. Et là, ma fille était née et j'ai vécu ce moment qui m'a marqué à vie.
Qui
fait que je ne peux plus avoir peur de la mort. C'est quelque chose qui est en moi. Et voilà.
Qu'est-ce que vous dites? Merci Chantal pour votre témoignage. Que vous dites les neurochirurgiens notamment que vous avez rencontrés, tous ceux qui le terme m'échappe, trouvez-le-moi, neuropsychiatre tout simplement, excusez-moi. Que vous disent-ils de cette expérience atypique sur laquelle vous vous êtes penché également dans votre livre, celle de la mort imminente?
Des expériences de mort imminente. Alors ceux qui se sont penchés sur le sujet, qui l'ont étudié, ne trouvent pas d'explication rationnelle. Il y a toujours des explications qui peuvent rendre compte d'une partie de l'expérience. Mais l'expérience dans sa globalité, telle qu'elle a bouleversé cette auditrice, Chantal, et beaucoup d'autres, et des milliers d'autres à travers la France, à travers le monde entier, il n'y a pas d'explication rationnelle.
On va revenir dans un instant sur l'expérience avec David Servan-Schreiber, mais d'abord demain, on parlera du petit Nicolas.
Exactement,
un grand événement.
Et partenaire de ce film.
Julia, et je crois qu'avant qu'on continue cette émission,
on fait une petite bulle enfantine. Exactement. Et ouais, l'occasion de la sortie au cinéma, c'est demain du film Le Petit Nicolas. Europe 1 a décidé de vous gâter en vous proposant de gagner l'intégrale des histoires inédites du Petit Nicolas aux éditions IMAV, ainsi que l'affiche du film et une trousse, et le tout sera réuni dans un cartable collector. Alors, vous avez deux possibilités pour jouer avec nous. Soit vous appelez le 3921, c'est le standard Europe 1, soit vous nous envoyez un SMS au 72121 en tapant le mot-clé, vous l'aurez compris, c'est le mot Nicolas. Je vous souhaite bonne chance à tous.
Europe 1, et si c'était ça le bonheur, Faustine Bollard.
Et si c'était ça le bonheur d'aborder tous les sujets sans tabou, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui puisqu'on parle de la peur de la mort avec Stéphane Alix qui est notre invité. Stéphane qui est un ancien journaliste de guerre qui a perdu son frère en 2001. Après cela, il s'est plongé dans une véritable enquête qui a été nourrie par sa curiosité justement sur ce sujet qu'est la mort. Il est aujourd'hui président de l'Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur un site internet www.inrees.com, un site internet qu'on va immédiatement mettre sur Europe1.fr également. Et il a publié La mort n'est pas une terre étrangère aux éditions Albin Michel. Je vous lis différents témoignages qui nous arrivent. Nelly nous écrit: j'ai vu mon grand-père mort lorsque j'avais 4 ans. Je me souviens de la pièce, des femmes en noir et du corps de mon grand-père sur une table. Je n'ai aucun autre souvenir de lui, mais celui-là, je pense avoir été traumatisée. Depuis, je ne veux plus voir un mort. Je n'ai pas pu aller voir ma grand-mère morte. Je ne sais pas comment je ferai lors de la mort de mes parents. Et puis on a eu un témoignage bouleversant aussi j'ai accompagné de Nathalie qui nous dit: j'ai accompagné ma sœur jusqu'à son dernier souffle en compagnie de mon autre sœur. C'était un moment absolument magique, aussi émouvant que la naissance de mes enfants, comme un chemin dans l'autre sens. Elle était jeune, malade et ne voulait pas mourir. Nous l'avons aidée à abandonner ce monde d'objets. J'ai senti que son âme partait avant le dernier souffle. J'étais soulagée et bouleversée à la fois. Ensuite, je me suis occupée de son corps mort, mais elle n'était plus là. C'était il y a 10 ans et elle m'accompagne tendrement, même si elle est très loin. Ça met un petit peu la chair de poule, ce témoignage.
Moi aussi, oui.
Un chemin dans l'autre sens. Vous avez ressenti ça, que votre, enfin, en même temps, votre frère est parti brutalement. Vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir au moment de son dernier souffle. Mais ce chemin dans l'autre sens, vous comprenez cette expression?
Oui, vraiment. Effectivement, l'accident a été très brutal, très rapide. Thomas était mort instantanément. Mais d'ailleurs, le livre commence à cause de ça. Il commence parce que je lui tenant la main, tenant ce corps vraiment vide dans lequel il n'y avait plus rien. quelque chose a commandé en moi de m'adresser à lui. Je sentais qu'il y avait de la confusion, je sentais qu'il était perdu. Et c'était pas seulement moi. Il y avait d'autres personnes qui sont décédées dans le même accident. Et je me suis adressé à eux. J'ai regardé un peu le vide au-dessus des corps et je me suis adressé à eux. Donc oui, ce moment-là, c'est un moment qui est vraiment hors du temps, qui s'appartient à lui-même, et dans lequel, si on est, comme je l'étais, profondément ouvert et bouleversé, on capte des choses. Et d'accompagner quelqu'un sur la durée permet peut-être, je pense, de s'en rendre encore plus compte. J'en ai parlé d'ailleurs avec Marie de Henzel, qui a développé les soins palliatifs en France.
Qu'on a beaucoup reçu dans cette émission.
Et qui nous parle de ce moment de la mort, qui est un moment à part entière. Et même s'il reste une journée,
un extraordinaire
même s'il
moment
reste
de vie.
Une heure, c'est une heure importante.
Rose nous écrit, je ne trouve pas les mots pour vous parler de la mort de mon beau-père, cancer du fumeur en 6 mois. Nous n'étions pas préparés. Quelques minutes après sa mort, je l'ai regardé. Il n'était plus là. Son corps était vide. J'ai eu l'impression qu'il était parti en laissant ses démons emprisonnés à l'intérieur de lui. Quelques jours plus tard, je l'ai vu passer dans le jardin et encore aujourd'hui, je le vois qui passe devant chez nous. Il est apparu en rêve à mon amour et un matin, il lui a même dit qu'il était en retard au travail. Ma fille, un jour où nous venions de visiter une église, m'a parlé d'un monsieur en blanc qui venait à la messe et qui était en même temps que nous dans l'église. Elle l'a vu, moi non. La mort n'est qu'un passage. La seule tristesse que je pourrais avoir à ma mort, c'est celle de quitter ma fille. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu cette expérience que vous avez eue avec David Servan-Schreiber, Stéphane?
Oui, alors c'était pendant une séance de thérapie que je faisais avec David Servan-Schreiber pour soigner justement ce trauma qui avait suivi l'accident. Alors quand on est concerné, en général, on pense, surtout nous les hommes, que tout va bien. C'est ma femme qui m'a convaincu que j'aurais peut-être besoin d'aller voir un thérapeute. Donc j'ai fait quelques séances de soins avec David. Et lors d'une séance, effectivement, j'ai vécu une remémoration de l'accident où je me suis transposé, en fait. Je me suis transposé dans le corps de mon frère. C'était une espèce de transfert extrêmement fort, extrêmement émotionnellement et émotionnellement bouleversant, qui a... très bizarrement et de façon incompréhensible, résolu une partie de la blessure psychique que j'avais.
Parce que vous avez l'impression de l'accompagner, puisque vous l'avez revécu avec lui?
Oui, enfin la scène que j'ai visualisée, mais qui est une scène de visualisation de rêve éveillé d'une certaine manière, tout à fait classique, je me suis vu dans son corps et nous suis vu tous les deux nous élever dans le ciel et lui dire au revoir. C'était une forme d'au revoir symbolique que j'ai peut-être pas pu faire sur le moment. Ça, c'est quelque chose que David Servan-Schreiber explique bien dans son travail sur la dissociation des souvenirs traumatiques qui restent comme des espèces de kystes inatteignables au sein du cerveau. Et autrefois, on croyait que, bah voilà, quand vous aviez vécu un traumatisme, vous étiez fichu, c'était comme ça, et puis vous fallait vivre avec. Et l'EMDR, notamment, est aujourd'hui une technique qui permet de se reconnecter à ce problème traumatique qui est enquisté et perdu au milieu de votre cerveau, et de le réintégrer dans votre vie psychique habituelle, et de recouvrer une santé psychique et un équilibre normal, alors qu'on pensait que ça n'était pas possible.
On va prendre Annie, si vous voulez bien. Annie, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Annie. Vous-même, vous avez assisté aux derniers instants de votre maman.
Voilà.
C'était il y a combien de temps, Annie?
C'était en 1998.
Et vous avez... Oui, je vous écoute.
Elle avait 87 ans.
D'accord. Et vous avez eu le sentiment, vous-même, qu'elle vous a attendu pour partir. Il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent des témoignages dans ce sens.
Voilà. Parce que nous allions, mes sœurs et moi, mais à tour de rôle, hein, parce que nous travaillions, bien sûr, à l'époque, en 98. Donc nous y allions à tour de rôle aux alentours de un peu avant 15h. Hein. Et puis ce jour-là, exceptionnellement, je ne sais pas pourquoi, on s'est retrouvés toutes les trois ensemble, plus une de mes nièces. Voilà. Et mes filles étaient trop petites. Et donc ce jour-là, nous sommes arrivés vers 3h moins le quart, 3h, et on lui a tenu la main, et on a senti que c'était la fin. On lui a tenu la main, on aurait dit qu'elle nous serrait, mais c'était peut-être une impression. Et donc vu l'heure, je pense, on suppose qu'elle nous a attendus, hein, pour mourir. Et c'est un moment que je peux pas m'expliquer, mais inoubliable, émouvant. Et c'est vrai que quand j'en parle à certaines personnes, ne comprennent pas qu'on puisse dire que ça n'était pas un moment triste. Pas du tout. Nous n'avons pas pleuré, toutes les quatre. Nous nous sommes regardées. Et je trouve que c'est formidable d'assister au dernier, voilà, c'est formidable d'assister au dernier souffle de la personne.
C'est vrai que, Annie, on vous entend très très mal, donc on va s'arrêter là, mais merci pour votre témoignage. Surtout que c'est vrai que c'est très tabou, aujourd'hui. Sophie Davant nous en a parlé un jour quand elle est venue dans cette émission. Elle nous avait dit qu'elle avait accompagné sa maman et qu'aujourd'hui, elle avait eu un long cancer du sein. Et, elle nous expliquait, que elle avait du mal à avouer qu'elle avait apprécié finalement ces moments où elle l'avait accompagnée. Et, Annie le dit très justement, en disant c'était un moment formidable
de vie où on n'a pas pleuré. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ça?
Oui, je trouve que vous avez une façon merveilleuse de le dire, Annie. C'est un témoignage très très fort, et c'est vrai que il faut que des gens comme vous puissent le dire de plus en plus, parce que c'est ce que disent tous les gens qui travaillent en soins palliatifs ou en accompagnement de fin de vie. La peur peut toujours être là, mais il y a quelque chose qui se construit dans cet instant-là. C'est votre maman, Annie. C'est la personne qui vous a mis au monde. C'est la personne qui vous a fait arriver ici, et vous l'accompagnez, vous, quand elle s'en va. C'est essentiel. C'est peut-être une des plus belles choses que l'on puisse faire. Et j'espère que moi, je serai présent le jour où mes parents s'en iront ou le jour où mes proches s'en iront. Parce que c'est la réalité, c'est le moment le plus important de notre vie.
On va revenir justement, on va vous poser la question dans un instant, savoir si comment ont réagi vos parents justement dans votre quête. Juste le temps pour moi de vous lire quand même deux témoignages. Celui de Nathalie: j'ai 40 ans, à l'âge de 12 ans, mon grand-père est mort, j'étais à l'école, j'ai regardé ma montre et je me suis dit, tiens, il est 15h. J'ai ressenti un grand vide et je ne savais pas pourquoi. Le soir, en rentrant à la maison qui était vide, j'ai compris que mon grand-père n'était plus là. Après, j'ai demandé à quelle heure avait lieu le décès, on m'a répondu 15h. Je suis persuadée qu'il est venu à ce moment-là pour me dire au revoir. Diane nous écrit: je voudrais vous dire quelque chose qui m'a énormément secouée au moment de la mort de mon petit frère. Il a eu un accident de circulation une nuit de janvier. Je dormais et tout à coup, dans mon rêve, je l'ai entendu me dire qu'il était mort et qu'il me disait au revoir. Vous imaginez bien que je me suis réveillée en sursaut en pensant avoir fait un cauchemar. Le lendemain matin, mon père est venu m'apprendre la mort de mon frère. Je ne sais pas comment ça est possible, mais je ne l'oublierai jamais. On s'arrête juste un instant et on revient après tout avec tous vos témoignages. On écoute un petit peu de musique. Continuez à vous manifester au 39-21. À tout de suite.
Et si c'était ça le bonheur, Faustine Bollard sur Europe 1.
J'ai surmonté ma peur de la mort. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à vous manifester. On vous en remercie. Stéphane Alix est toujours notre invité. Il est président de l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Il publie aujourd'hui un livre, La mort n'est pas une terre étrangère, aux éditions Albin Michel. Comment réagissez-vous à tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure, à tous ces gens qui ont envie de parler avec vous, de eux aussi, ils ont vécu ça? D'ailleurs, en nous disant que ça leur fait du bien d'en entendre parler parce que c'est un sujet extrêmement tabou.
Ça ne m'étonne pas, parce que en cours d'enquête, moi, j'ai pu constater que j'étais pas du tout le seul à me poser ces questions, et j'ai commencé à recueillir et à entendre des témoignages extrêmement nombreux de personnes ayant vécu des expériences parfois très très incompréhensibles autour de la mort, comme celle que vous venez de dire, de cette jeune fille qui voit son frère dans son rêve le prévenir qu'il est mort alors qu'elle l'ignorait. Et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à créer l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, l'INRES, pour que collectivement, et non plus avec mon seul statut de journaliste, mais que collectivement, avec des soignants, des psychologues, des psychothérapeutes, on se penche sérieusement sur l'ensemble de ces expériences qui ne reçoivent pas d'explications rationnelles et qui pourtant se produisent autour de nous. Parce que ces expériences, comme celle qu'a vécue cette jeune fille, elles arrivent à entre 50 et 80% des gens qui perdent un proche. Donc les reléguer dans le côté irrationnel, dire que ça n'existe pas, qu'on ne veut pas en entendre parler, c'est ça qui est irrationnel.
Et c'est ce qui de ne pas savoir écouter, ou en tout cas se poser la question en disant ça existe, voilà, ne pas totalement exclure la possibilité que ça soit vrai.
Ces expériences se produisent. Dire que ce n'est pas possible, ça n'est pas une réponse. Donc ces expériences, il faut les écouter, il faut les écouter avec rigueur, avec un cadre, et c'est ce qui m'a incité à créer cet institut de recherche.
Deux mails, Thomas, si tu veux bien. Nathalie nous écrit: j'apprécie beaucoup ce que dit votre invité, il n'y a pas de vérité, juste un ressenti, quelque chose que l'on sent au plus profond de soi. L'ami d'enfance de mon mari est mort l'été dernier, il m'était très cher, il travaillait pour la société 1, il est mort dans le département 21 alors qu'il était avec deux copains à la pêche à la carpe. Dans la semaine qui a suivi son enterrement, j'ai croisé un camion de cette société immatriculée 21. Je n'en ai plus jamais croisé depuis. Ce jour-là, j'avais besoin de recevoir un signe et de le dire à son épouse, ce que je fis depuis. Je n'ai plus jamais eu de signe, mais son épouse est ouverte pour les recevoir. Ensuite, j'ai ressenti une paix par rapport à son départ. Et puis un mail très bouleversant d'Anne-Sophie qui nous dit: mon ami était à l'hôpital depuis 3 jours. Il est mort le matin et à l'heure de sa mort, il m'a fait l'amour. Je dormais, mais ce n'était pas un rêve. Il était là, présent, et je l'ai touché, caressé. Le jour de son enterrement, la porte d'entrée où toute la famille était dessinée est tombée. Les gonds lâché. Simple coïncidence, j'ai du mal à y croire. Notre fille, qui avait alors 14 mois, a tout de suite su que son papa était mort. Je ne lui ai jamais caché. J'en ai toujours parlé avec elle quand elle me demandait. Elle en parlait tellement librement que c'était les adultes à qui elle en parlait qui étaient presque gênés. Aujourd'hui, quand elle me demande « Maman, tu vas mourir ?» Oui, on meurt tous un jour et je vais mourir. Je ne sais pas quand, j'espère le plus tard que possible, mais ça, je ne peux pas lui promettre. Ce que je lui dis par contre, c'est que je n'ai pas envie de mourir tout de suite et que s'il m'arrivait quelque chose, il y aurait toujours quelqu'un pour s'occuper d'elle. Voilà le témoignage d'Anne-Sophie.
Europe 1, et si c'était ça le bonheur?
Et si c'était ça le bonheur?
Le livre du jour.
Un autre livre du jour, celui de Marie-Frédérique Baquet qui est avec nous. Bonjour Marie-Frédérique.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie et vice-présidente de la société de thanatologie et vous êtes co-auteur du livre qui nous intéresse aujourd'hui, un autre livre, Le Deuil, qui est paru aux éditions PUF. Je connais beaucoup de personnes, Marie-Frédérique, qui après la perte d'un être cher s'enferment dans le mutisme. Mettre des mots sur ses émotions est-il absolument indispensable afin de pouvoir avancer?
Ben oui, je crois que c'est très important parce que si les émotions nous rapprochent des animaux, elles nous permettent aussi parfois de craquer, d'être mal dans sa peau, d'être en situation de détresse. Donc les paroles nous permettent de prendre de la distance, premièrement, et puis deuxièmement, de communiquer avec nos proches, donc de mettre en mots quelque chose, une souffrance, et du coup de bénéficier aussi d'un accompagnement ou d'un soutien.
Pourquoi certains d'entre nous ne craquent absolument pas ?
Alors ça, c'est un grand problème dans notre société. On est dans une société rationnelle, comme on vient de le dire, et où en particulier les hommes doivent montrer une image forte. Donc ce sont surtout les hommes qui sont concernés par cette absence d'expression émotionnelle. Et on le sait aujourd'hui, ceux qui ne s'expriment pas sur un plan psychologique, eh bien souvent payent dans leur chair, enfin sur le plan somatique en tout cas, ou comportemental, cette absence d'expression. Donc on voit par exemple au niveau du comportement, beaucoup d'hommes en deuil qui s'alcoolisent, beaucoup d'hommes qui ont aussi des comportements parfois un peu violents. Alors bien sûr, ça concerne aussi les femmes, mais de façon plus minoritaire. Les femmes, fort heureusement, parlent énormément, échangent énormément, que ce soit avec les commerçants, avec leurs amis, avec leurs collègues de bureau.
D'ailleurs, j'avoue que depuis tout à l'heure, on a beaucoup de femmes qui nous appellent, beaucoup plus d'hommes.
Bien sûr, ça ne m'étonne pas du tout. Culturellement, les femmes sont habituées à s'exprimer. Et puis d'autre part, alors autre facteur peut-être qui peut paraître négatif, c'est que la plainte est assez tolérée chez les femmes. Donc comme cette plainte est tolérée, eh bien les femmes consultent. Elles vont voir le médecin, elles vont voir un psy, elles en parlent, etc. Et du coup, elles somatisent moins.
Je vois hocher la tête, Stéphane. Oui, vous reconnaissez parfaitement dans ce que dit.
C'est complètement moi. Non, tout va bien. J'assure. J'ai eu un moment de stupeur au moment de l'accident qui a duré quelques secondes, et puis tout de suite je me suis ressaisi. Je me suis occupé du corps, et pendant la semaine qui a suivi, j'ai téléphoné aux parents, à mes parents, etc., etc. Donc j'ai tenu le rôle du bon garçon qui fait tout ce qu'il faut.
Chef d'orchestre aussi. Hein.
Et puis il a fallu que ma femme me dise, mais tu sais, un an après, tu te mets quand même beaucoup en colère. Faudrait peut-être que tu ailles voir quelqu'un. Et c'est avec David Serrant-Schreiber que je me suis aperçu que j'avais une blessure que, comme m'a dit madame, je n'avais jamais considérée.
Marie-Frédérique, quels sont les rites nécessaires pour un homme et pour une femme, justement, qui permettent d'aller de l'avant et d'entamer ce qu'on appelle le travail de deuil ?
Alors, il y a vraiment des étapes qui sont connues ancestralement. C'est-à-dire que c'est important de dire que ce ne sont pas les religions qui ont inventé les rites. Hein. Ces rites, ils sont connus depuis à peu près 100 000 ans. Alors, d'abord, c'est voir le mort. C'est très important d'être sûr, d'avoir des informations, de comprendre ce qui s'est passé et qui a abouti à la mort. Ensuite, c'est honorer le mort, c'est-à-dire lui donner des choses. Parce que, en général, contrairement à ce qu'on représente dans les films d'horreur, les corps morts attirent la pitié, on a envie de les protéger, on a envie de les honorer, donc c'est très important de pouvoir les revoir, de pouvoir leur donner des beaux habits, quelque chose de doux, un bon environnement. Et puis enfin, alors ce qui est fondamental, c'est partager et puis témoigner, c'est-à-dire que les gens qui sont autour du mort avec vous peuvent donner la certitude que premièrement il est bien mort. Ça, c'est très important. Et que deuxièmement, eh bien, on est là, malgré la mort qui nous touche, on reste quand même vivant et on reste vivant à plusieurs. Et puis enfin, partager. Donc, partager les émotions, partager le ressenti et puis aussi partager les souvenirs. Il ne faut pas oublier que lors des rites de deuil, et encore aujourd'hui, la très triste cérémonie d'inhumation ou de crémation aujourd'hui était souvent suivie d'un banquet. Et on pouvait au moins partager un verre, manger quelque chose, et à ce moment-là les souvenirs fusaient, les souvenirs revenaient, et parfois même on terminait par rire, parce qu'on évoquait quelque chose de drôle que le défunt avait fait.
Le deuil aux éditions PUF. Merci beaucoup Marie-Frédérique Baquet, on se retrouve juste après ça.
Europe 1, Faustine Bollard jusqu'à 16h. Et si c'était ça le bonheur ?
On brise les tabous aujourd'hui, on parle de la peur de la mort avec Stéphane Alix qui est toujours notre invité. Il a publié « La mort n'est pas une terre étrangère » aux éditions Albin Michel. Deux témoignages avant de vous laisser la parole, Stéphane. Malika qui nous dit « Ma sœur est morte en 2005, elle m'a attendue pour mourir, j'étais dans la salle d'attente en train de fumer. Je suis rentrée dans la chambre, je lui ai pris la main, elle m'a serré la main et elle est partie. » Sylvie nous écrit « Merci pour cette émission qui rompt encore une fois les tabous. Lors de l'enterrement de mon grand-père, j'ai vécu un moment étonnant et sublime, une sensation de lumière et un bien-être qui envahissait tout autour de nous, comme si mon grand-père avait essayé de nous laisser un peu de la lumière en volant au-dessus et en nous. C'était un moment sublime, très fort, très beau, même si ça peut sembler extrêmement étrange. Elle nous explique que rien qu'en écrivant ce texte, elle se sent un petit peu étrange et elle a du mal à l'assumer. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, Stéphane, à tous ces gens qui témoignent depuis tout à l'heure, qui sont très émus par votre témoignage, je peux le dire parce que je reçois beaucoup de mails, et qui aussi se reconnaissent et surtout, enfin, quelqu'un voilà, qui ose aborder les choses avec beaucoup de lucidité et en restant quand même collé à ses convictions et à ses doutes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens qui, en ce moment, traversent ce que vous avez traversé avec votre frère ?
Mais peut-être difficile de donner des conseils, mais j'aurais envie de dire que moi, ce que j'ai mis en pratique peut-être être utile. Ne pas avoir peur de faire face à ses propres peurs, parce que quand on refuse d'aller voir un mort, quand on n'a pas envie de voir une personne que l'on aimait dans cet état, c'est nos propres peurs qu'il faut vaincre. Et je pense qu'on a tout à gagner à essayer d'y faire face. Enfin, si la vie ne sert peut-être qu'à une chose, c'est peut-être à ça, à contrôler ses émotions, à réussir à surmonter ce qui nous fait peur. C'est là qu'on apprend des choses, c'est là qu'on devient plus grand. Moi, je suis devenu beaucoup plus en paix, beaucoup plus fort, j'ai le sentiment. Et je suis capable aujourd'hui de dire des choses à ma fille que j'aurais peut-être pas été capable de lui dire il y a quelques années.
Vous en êtes où de votre cheminement, vous ?
Je suis profondément en paix aujourd'hui. Je pense que le cheminement n'enlève pas la douleur de la perte. Et c'est vrai qu'on est né, on était trois frères, on n'est plus que deux frères aujourd'hui. Pour mes parents, c'est quelque chose qui est irremplaçable.
Comment réagit votre famille à la lecture de ce livre ?
Ça a été difficile. Ça a été difficile parce que ça remue beaucoup de choses. Eux n'étaient pas présents. Donc c'est vrai que, justement, ma mère, notamment, souffre beaucoup de ne pas avoir pu être présent, de ne pas avoir pu s'occuper du corps de son fils. J'étais seul dans un hôpital au Pakistan. Je me suis occupé du corps. Je les ai tenus informés minute après minute. Mais ils auraient beaucoup aimé être là. Comme le disait la psychologue tout à l'heure, c'est vrai que de pouvoir simplement toucher un corps mort, c'est tout froid. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui manque et ça peut aider énormément. Ça aide énormément. Donc, ne pas refuser de voir la mort. Essayez d'affronter ses propres peurs. Si vous avez des craintes et qui sont bien légitimes à entrer dans la chambre d'une personne qui est en fin de vie, faites-le quand même. Faites-le quand même. Vous allez apprendre tellement de choses sur vous-même et sur cette personne à qui vous allez dire au revoir.
Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane Alix pour votre témoignage. J'incite tous ceux qui se posent beaucoup de questions à lire le témoignage de Stéphane. La mort n'est pas une terre étrangère. Aux éditions Albin Michel, quand on l'a dans les mains, on n'arrive plus à descotcher. Je pense que ça fait appel à beaucoup d'expériences que nous avons tous eues dans notre entourage ou des amis proches de nous. Ça fait beaucoup réfléchir sur soi-même, sur sa vision de la vie, sur sa religion également. Merci beaucoup pour ça.
Merci Stéphane. Beaucoup à vous, Stéphane.